à tous et bienvenue sur istasia.fr pour le seul podcast français consacré au cinéma asiatique avec une émission spéciale Corée à l'occasion du FFCP, le festival du film coréen à Paris, dont la 12e édition s'est tenue du 24 au 31 octobre. Alors on va commencer par notre traditionnel tour de table introductif où je vais vous demander brièvement votre impression générale sur cette édition 2017 pour ceux qui l'ont suivi avec attention ou moins d'attention. À commencer par nos accrédités Kefren et Nicolas. Bonjour Kefren.
bonjour Victor. Cette édition était très intéressante dans le sens où on avait le droit à des films indépendants qui étaient vachement bien et à une sélection paysage, même si elle était inégale, elle était assez intéressante, surtout lors des blockbusters qui pour le coup étaient...
Allez, si
vachement
une...
bien.
Oui. Si t'avais une punchline sur l'affiche du festival, qu'est-ce que tu dirais, Kefren?
Je dirais purement jouissif.
Parfait. Salut Nicolas.
Salut.
Alors, t'as ton impression globale sur le FFCP 2017?
Oh merde.
On expliquera, si vous n'avez pas compris tous ces privés de jokes et que vous avez raté quelques films, toutes ces références au cours de l'émission, bien entendu.
C'est un peu pareil que Kefren. Un peu comme l'année dernière, en fait, je trouve que le festival a évolué depuis 2-3 ans et propose de plus en plus de films variés pour tous les goûts, quoi. Non, mais vrai, c'est vrai, il y a des blockbusters, des comédies, des dramas. Et moi, je trouve que c'est bien que le festival aille dans cette direction parce que comme ça.
Très bien. Donc, en fait, on va arrêter le podcast ici et vous pouvez écouter le podcast qu'on a enregistré
l'année dernière
avec exactement la même conclusion. Bonjour Albert.
Bonjour. Je vais faire un petit peu plus original, on va dire. Je vais pas parler de la programmation puisque ça va être la même chose. Les films sont de qualité. Mais par contre, cette année, c'était cool parce qu'on pouvait rentrer dans les séances. Au contraire de l'année dernière, qui était blindée. Je pense qu'il y avait moins d'invités aussi qui attiraient les foules cette année. Au contraire de l'année dernière où il y avait quelques
acteurs
en tout cas qui. Qui ont fait en sorte que des hordes de jeunes filles, Azura notamment, qui était quand même un film pas top et les deux séances étaient complètes de chez complètes. Là, cette année, il y avait moins d'invités, donc un petit peu moins de monde, même si les grosses séances étaient complètes, quoi qu'il en soit. Mais du coup, on a pu voir des films tranquillement, sans poireauter pendant 2 heures, en fait, et se faire...
Et c'est vrai que d'ailleurs, les séances qui étaient complètes n'étaient pas forcément celles qu'on attendait, parce que par exemple, I Can Speak, le deuxième jour, était absolument...
Parce qu'il y avait un acteur, un jeune premier, qui était là, en fait.
C'était pas un des films les plus attendus, mais bon, on va en parler plus en détail. Salut Elias.
Bonjour. Alors, je peux être méchant un peu ou pas?
Tu peux être méchant, vas-y.
C'est un festival qu'on va faire quand
même. Nous sommes partenaires du festival. Non, en fait, le FFCP, des trois festivals qu'il y a un peu à la rentrée, c'est-à-dire l'étrange, FFCP, Kinotayo, qui s'enchaînent relativement vite.
Kinotayo, c'est maintenant, ouais.
Je sais. Ou le pif, on t'en fout. C'est un peu le...
Donc t'es méchant avec le pif.
C'est un peu, en fait, le festival des trois qui m'intéresse le moins. Parce qu'en fait, il y a toujours des bons films au FFCP. Il y a toujours des films de qualité. Il y a rarement des très mauvais films, il y a peut-être eu un ou deux maximum, mais encore c'est pas au niveau de l'étrange entre un très mauvais film, quoi. Mais il n'y a jamais non plus des films transcendants, c'est assez rare cette année, il y en a eu un, on parlait tout à l'heure, qui était vraiment excellent, qui est Battleship Island, enfin, mais à part ça, voilà, c'est des bons films, mais qui franchement ne retournent pas ni l'esprit du spectateur pour moi, ni le cinéma coréen en tant que tel, et c'est des... Ça se regarde, c'est agréable.
Ça sera peut-être la thématique du bilan, mais est-ce que ça représente l'état du cinéma coréen?
Oui, je pense que oui. Du coup, mais c'est pas à cause du FFCP, je parle des films, je parle pas du festival. Le festival fait un bon travail, prend les films qui peuvent, machin, mais je parle pas du festival, je parle juste des films en tant que tel. Voilà.
Salut Justin.
Salut. Donc, moi je dirais que je suis un peu comme Elias, c'est-à-dire il y a une qualité générale. Au niveau des films, que ce soit les blockbusters où ça reste des gros divertissements plutôt efficaces où il n'y a rien à redire. Les films d'auteur, tous, même sans avoir à accrocher, il y a toujours une proposition, il y a toujours quelque chose d'intéressant à en retirer. Après, peut-être par rapport à... Ça manque peut-être de génie, quoi. C'est ça, il manque de folie. Il n'y a pas un réalisateur qui est sorti, on en parlait après les séances souvent. Il n'y a pas un gros réalisateur, un génie, peut-être un chef de film qui est sorti, ou deux, trois réels comme on a pu avoir au début des années 2000, qui sort du lot où on a vraiment quelque chose d'inattendu, de surprenant. Mais après, il y a une qualité générale qui se dégage dans tous les genres. Même, voilà, comme j'ai dit, les films d'auteur, même si j'ai pas aimé tout ce que j'ai vu, il faut quand même admettre qu'il y a une proposition. Par exemple, on en reparlera après, Quiet Dream, un film que j'ai pas accroché spécialement, mais il y a une proposition et quelque chose quand même. Mais ça manque de le petit grain de folie qui fait sortir les films du lot. Quoi.
Et bonjour Jérémy, comment ça va ?
Ça va.
T'as vécu le festival d'un peu loin.
Un peu loin, ouais. J'ai quand même vu deux films qui étaient très très bons, donc on en reparlera tout à l'heure.
Bah très bien.
C'est teasing. Oh,
le petit clin.
Alors on va dérouler justement au niveau du sommaire. On va faire simple, on va parler des films d'ouverture, de clôture, des films importants d'avant-première, des événements, puis après on va faire une petite sélection des films qui étaient dans la section
paysage.
Voilà, pas portrait, et portrait aussi, du coup on va en parler. Mais on voulait rendre, puisque pendant le festival du film coréen, on a pris la disparition de Kim Jo-hyuk.
Kim Jo-hyuk,
dont Edvire, tu voulais nous dire deux mots sur donc cet acteur qu'on avait vu l'année dernière.
Tout à fait. Donc il est décédé le 30 octobre à l'âge de 45 ans des suites d'un accident de voiture. Sa Mercedes s'est malencontreusement écrasée contre un mur. Donc nous on l'avait vu l'année dernière au FFCP dans The Truth Beneath.
Qui était un de nos coups de cœur.
On l'a également vu dans Yourself and Yours de Hong Sang-soo. Et en fait, il avait débuté sa carrière dans les dramas à la fin des années 90 et au cinéma début des années 2000, en fait. Il a continué, en fait, à tourner régulièrement sans forcément avoir des très grands rôles ni tourner dans des très gros films. Et a continué aussi les dramas à la télévision coréenne. Donc, et là, il avait deux films en projet pour 2018. Voilà, c'est une triste disparition.
Très bien, On va maintenant parler des deux films un peu événementiels, en guise d'introduction, celui qui a ouvert le festival donc, la semaine dernière, qui est A Taxi Driver. Donc, c'est un film événement de Yang Hong. Qui veut résumer le film ? Elvire.
Merci.
C'est l'histoire d'un mec.
Alors, c'est un film qui raconte les événements qui se sont déroulés à Gwangju en mai 1980, donc les émeutes très fortement réprimées par la police. Et donc en fait, le film suit un journaliste allemand basé au Japon qui apprend justement qu'il y a des émeutes à Gwangju, que les communications sont coupées, que ce soit des communications terrestres ou téléphoniques, et qui donc se rend en Corée. Et fait appel à un taxi pour pouvoir accéder à la ville de Gwangju. Et donc, on suit en fait son expédition jusqu'à Gwangju et ce qui se passe un petit peu là-bas. Donc, on suit le point de vue du journaliste, mais aussi celui du chauffeur de taxi en fait, qui avait rien demandé, qui savait même pas ce qui se passait dans cette ville et qui découvre en même temps que le journaliste les émeutes.
Alors, c'est une bonne pioche en termes d'ouverture pour débuter le festival.
Bah, c'était un film très attendu en fait, puisqu'il a fait un carton en Corée. Donc je pense que en termes de fréquentation, c'était le bon film à choisir pour une ouverture.
C'était 12 millions d'entrées, je crois.
Ça a vraiment fait un carton. Moi, c'est un film que j'ai trouvé pas mal dans sa première partie. Je crois que c'est un film. Il dure combien de temps ? Il dure.
2h20.
Ouais, 2h20. Et la dernière demi-heure m'a un petit peu gonflée parce que le réalisateur commence à oublier son sujet en fait. Et 45 minutes avant la fin du film, il oublie en fait qu'il est censé aussi parler des émeutes de Gwangju. Et ça devient une histoire un peu plus personnelle sur le chauffeur de taxi, sa vie. On s'en fiche un petit peu en fait. C'est pas, nous, en tant que spectateurs, le chauffeur de taxi. Il a eu un rôle dans l'histoire, mais enfin, moi, perso, je m'en fous de sa vie, en fait.
Ah, il faut dire qu'il est incarné par Son Gong-ho, du coup.
Oui, donc il avait aussi une petite obligation, en fait, je sais pas si elle est réelle ou si c'est imposé à lui-même, de mettre l'acteur en avant, en fait.
Et qu'il avait déjà dirigé, par ailleurs, notamment dans Secret Réunion, il me semble. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est vraiment au centre dès le début du film, puisqu'il est censé représenter, il me semble, le point de vue voilà, du spectateur coréen.
Et puis des Coréens, en fait,
qui
de
est complètement apolitique, en fait, au début du film. Il y a les mouvements étudiants, et puis lui, ça l'énerve parce qu'il y a son rétro qui est... Qui est cassé.
Ah, il est pas trop apolitique.
Et ça bloque la circulation.
Il est apolitique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de conscience de ce qui se passe en Corée à ce moment-là. Et qu'il considère
les mouvements étudiants comme marginaux. Il a quand même une vision de la société.
Oui, mais qui est celle officielle.
Oui, convenue, en fait. Ça veut dire que quand il va voir. Oui, mais
non,
c'est... à ces moments-là, c'est pas une vision.
Et quand il leur dit vous ferez mieux de suivre le gouvernement et de rentrer chez vous et tout ça.
Mais à ce moment-là, c'est pas rien, justement.
C'est ce qu'on voit aux informations.
Non, il leur dit vous devriez aller à l'école. Il leur donne des leçons à tout le monde.
C'est pas
rien. Dans ce qui est en train de se passer, oui, quand même.
Même aujourd'hui, c'est une vision apolitique et il suit le point de vue officiel gouvernemental sur les manifestations.
Mais non, mais c'est même peu à peu. Du gouvernement, c'est genre, il fait la morale à tout le monde au début du film. Il lui dit toi, tu devrais retourner à l'école parce que vous devriez faire ça et vous devriez faire ça.
Et peu à peu, il va découvrir avec le spectateur du film la réalité, le fait que le gouvernement cache des choses, la violence étatique, et donc s'engager. Mais c'est vrai qu'on est toujours avec ce personnage. Et c'est pour moi un des défauts du film, effectivement, d'avoir cette évolution qui est un peu facile, de le faire sur le style du buddy movie avec un personnage donc de ce journaliste allemand qui, lui, est monolithique, est pour moi clairement antipathique dans le film parce qu'il a son point de vue et qu'il évolue pas d'un iota. Et quand on se referme là-dessus sur la relation entre les deux à la fin, on comprend pas pourquoi il y a cette histoire d'amitié qui dépasse les frontières, le temps, etc.
Sens pas trop l'évolution
à la fin, donc c'est quand même très, très faible. Et par rapport aux émeutes et aux événements, il y a beaucoup de clichés et ça me semble être très superficiel. Et effectivement, dans la deuxième partie où il devrait prendre à bras le corps le sujet politique du film, finalement c'est quelque chose qui apparaît comme étant déjà vu dans les scènes d'émeute. Il en rajoute énormément sur le côté très larmoyant, très on s'apitoie pour ces pauvres manifestants qui se font tuer de manière un peu caricaturale, et du coup on perd complètement le propos du film. Kefren, maintenant, je vais te laisser répondre et développer un peu.
Non, mais moi, je suis d'accord avec ce que vous dites sur la fin du film, que justement, on se perd, et ça aussi, je soutiens aussi cette critique. Mais le début du film est beaucoup plus nuancé que ça, parce que justement, la figure de Song Kang-ho sert un peu d'idiot, et la manière dont il montre les choses, ça permet au réalisateur de déployer plusieurs dispositifs de mise en scène qui peuvent donner une emphase à certaines choses ou mettre l'accent sur certaines choses qui, s'il les avait filmées de manière plus crue, seraient soit pas assez intéressantes pour un film de cette carrure, ou soit, par exemple, trop violentes. Notamment la scène, par exemple, où ils se font pourchasser par la police. S'il n'avait pas utilisé les atouts du cinéma de genre pour montrer cette scène, dans son film Grand Spectacle, ça aurait paru détruit la cohérence du film, en fait, de sa construction comme un objet à la fois de divertissement grand spectacle et un objet politique. Et je trouve ça intéressant d'utiliser cette sorte de...
Oui, mais le politique est noyé, du coup, dans le film grand spectacle.
Mais non, justement, quand on utilise les atouts du cinéma de genre, le politique n'est pas né, vu que le cinéma de genre est intrinsèquement politique, enfin, c'est de ça dont il s'agit. Mais je suis d'accord lorsque vous dites que... Politique.
Ouais, mais quand il y a une métaphore, mais là il a une représentation qui est censée être frontale.
Par exemple, je suis d'accord avec le traitement du personnage de journaliste qui, pour moi, est raté. Il n'y a aucune remise en question sur ce personnage. Il est là, il filme la misère et il n'y a même pas de rapport à son regard en tant qu'étranger qui est presque voyeur. Il est là dans le commissariat, les gens meurent devant lui et tout. Et il le traite sous le coup de l'émotion au lieu d'avoir une réflexion plus critique sur ça, et en soi je suis d'accord. Mais pour le reste, je trouve que le traitement du spectacle et de l'émotion dans le reste du film est assez nuancé, et c'est assez intéressant. Et même dans les scènes d'émeute, je trouve que c'est quand même intéressant comme vision.
Les scènes d'émeute sont bien réussies,
non ? Bah oui, justement. Je trouve ça très...
Et
après, c'est Elvire qui me dit ça, je crois, c'est que aussi, Gwangju, c'est un événement de l'histoire coréenne qui est très peu connu, en fait, en Corée, au final, enfin, moi, quasiment presque moins connu que pour les cinéphiles étrangers qui voient les films coréens qui parlent de ça.
Mais au contraire...
J'exagère, mais c'est assez peu connu, enfin, Ce qu'on m'a dit, moi j'ai pas regardé.
Mais moi le
reste c'est une connerie, c'est une connerie.
Non, non, c'est assez peu connu pendant très longtemps en fait.
Mais oui, mais moi le reste.
Et ça reste étouffé.
Ça reste étouffé
par le gouvernement.
Maintenant justement, moi le réalisateur il me dit que s'il a pas
explicité.
Non, attends, s'il a pas.
Un mot du réalisateur.
S'il a pas explicité certains tenants et aboutissants du combat justement qui se passe à Gwangju, c'est parce que pour lui tout le monde connaît Gwangju en Corée.
Parce que maintenant en Corée. Gwangju, ils savent ce qui s'est passé.
Oui,
il y a
des émeutes en Gwangju. En 2003, le réalisateur
après,
s'est fait.
Est-ce qu'il y a eu...
Le journaliste a eu une récompense, c'est-à-dire oui. Tout le monde est au courant
et
de ce qui s'est passé à Gwangju.
Est-ce qu'ils savent exactement comment ça s'est déroulé? Je ne pense pas.
Si, mais les jeunes Coréens, ils savent justement. Ceux qui ont fait les 12 millions d'entrées, ils savent. Enfin, c'est les jeunes Coréens, ils savent ce qui s'est passé à Gwangju.
Oui, ils n'arrivent pas à ce film alors.
Bon. Ça, mais justement, il sert à célébrer cette mémoire, en fait, à la rappeler, à être un monument, comme dans le cinéma américain.
Alors, Elias, pour finir, parce que du coup, on a
coupé. pardon.
En fait, je trouve vraiment voilà, que la seule utilité du film, d'un point de vue théorique, ça serait simplement de faire un film grand public pour faire découvrir à certaines personnes ce qui s'est passé d'une manière plutôt sympa, pas trop dure, pas trop méchante. Intro, un peu intro à d'autres films ou vraiment une histoire, voilà. Si effectivement, comme tu le dis, si ce qu'Elvire me dit est vrai et qu'on le connaît assez peu, ce film a raison d'être. Si ce que tu me dis, tout le monde le sait, ben, ce film en fait n'a pas existé, ce qui sert à rien.
Si, la Seconde Guerre mondiale, c'est juste un mauvais blockbuster. Il y a des films sur la Seconde Guerre mondiale chaque année. Justement.
Oui, mais qui n'entrent pas dans le cadre juste d'un espèce de devoir de mémoire, ce qui est le projet du film.
Oui, mais la Corée. Oui, mais la Corée n'est en démocratie que depuis genre 25 ans, 6 ans. Et s'ils peuvent même pas revenir sur leur histoire à travers le cinéma, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait?
Des bons films.
Mais genre, c'est un bon film, c'est du moins un film intéressant. Au détriment d'être un bon film, c'est au moins un film intéressant qui a le mérite de traiter cette histoire
en fait,
frontale.
En fait, alors Nicolas, pour conclure, sur
moi quand je suis allé voir le film, je savais que j'allais voir un divertissement populaire avec un fond politique. Mais je savais que le côté politique ne serait pas un truc d'investigation pure avec quelque chose de très, très recherché ou très profond. Donc j'ai jamais eu des intentions par rapport à ce film qui allait dans ce sens-là, quoi. Donc j'ai pas été déçu, entre guillemets. En fait moi, je trouve le personnage de Song Kang-ho, oui, il est au centre de l'histoire, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes par rapport à sa famille et l'éloignement qu'il subit involontairement au final. Et la manière dont il prend fait et cause pour les résistants et tout ça. Et il y a des scènes très belles à ce niveau-là, par exemple, quand il revient dans sa ville et qu'il est dans sa voiture et qu'il est dans une espèce d'état d'hésitation où il ne sait pas ce qu'il va faire, retrouver sa fille qu'il a un
ça,
peu abandonné.
C'est une belle scène, parce que voilà. C'est un super bon acteur.
Quand même, il est devant un panneau avec, genre, il doit aller à droite, à gauche, il s'arrête là, et puis il tourne finalement.
Non, mais la manière
non, c'est pas ça, c'est qu'il y a un cheminement, c'est-à-dire voilà. Qu'il y a un plan fixe sur lui qui rechante sa chanson comme au début du film. Et ça, c'est intéressant, et la montée d'émotion est intéressante, justement.
En fait, c'est le côté, c'est un divertissement populaire, c'est-à-dire, c'est pas plus, mais je trouve...
C'est pas une excuse.
Non, mais pour moi, le film aurait les reproches que l'on peut faire au film de Spielberg, c'est-à-dire dans le traitement de l'émotion par rapport à l'histoire et aux
conséquences
de
ce film.
Mais oui, justement, avec Battaché
Palande.
Justement, Battaché Palande, ça va tellement loin que tu es dans une autre dimension.
Alors, on arrive à Battaché Palande, du coup, on va conclure sur Taxi Driver. Après, par contre.
On parle de Mimic ?
Si, on va parler de Mimic avant. Juste, oui, c'est vrai que moi je suis assez content de voir que le cinéma coréen, on va y retourner tout à l'heure, sort de la période Seconde Guerre mondiale, occupation japonaise, pour avoir des thématiques qui sont plus proches et traitées des années 80 notamment. Donc j'espère que ça va être fait avec peut-être un peu plus de subtilité et un autre travail sur le genre.
Mais c'est à tourner, par exemple.
On va y arriver plus tard, mais avant, on va parler de la clôture avec ce film qui a été présenté le soir d'Halloween, donc le 31 octobre, qui est The Mimic.
Oui, enfin, je résume.
Eh bien, vas-y.
Alors, c'est l'histoire d'une femme, de son mari...
Qui joue mal.
Oui, bon, ils jouent tous mal. De sa petite fille, de sa mère qui est malade, qui a Alzheimer.
Ouais,
et donc cette petite famille en fait déménage en campagne parce qu'en fait la famille n'a jamais réussi à se remettre de la disparition de leur petit garçon 5 ans auparavant.
Johnson.
Oh, je ne sais plus comment
Johnson.
Il s'appelle
Johnson.
Donc il déménage à la campagne en espérant Je vais résumer vraiment, en fait, c'est la grand-mère qui gardait le gamin quand il a disparu. Ils espèrent qu'en revenant à la campagne, qui est la région natale de la grand-mère, la mémoire lui revienne. Enfin, je vais pas vraiment.
Ils disent où est le gamin, ils disent où est Johnson.
Voilà, où est-ce qu'il est parti. Et donc, il se retrouve là-bas, il trouve une petite fille abandonnée, en fait. Et là, ça commence à partir en live, il y a des événements bizarres.
Il y a des fantômes.
Il y a des fantômes, et puis il y a une grotte bizarre.
Il y a une grotte bizarre qui en gros appelle les gens avec les voix d'amis ou de familles qui sont morts, et qui du coup attirent les gens vers cette grotte, et quand ils ont, c'est une espèce de.
C'est ça. Ah, t'as compris, c'est.
Voilà, donc c'est nul.
C'est. Non, il y a un quart d'heure d'arrachement au milieu.
Il y a deux, trois effets sympas. Et puis c'est tout, et sinon, donc le fameux Omma, en fait, c'est parce que la dernière heure de film, donc c'est quand même long, sur 2 heures de film, la gamine passe son temps à appeler maman, et maman, encore rien, c'est Omma, donc on a passé une heure à entendre Omma.
Je crie beaucoup.
Voilà, donc si vous n'étiez pas à la clôture, vous n'avez rien loupé. Est-ce que quelqu'un veut dire un dernier mot sur Mimi?
Ouais, je peux.
Ça va, vas-y, Elias.
Non, mais je veux juste. Déjà, je finirai au mat tout à l'heure. Je leur dirai, je le tease. Non, mais en fait, Mimic, ça montre que le cinéma d'horreur coréen, c'est vraiment pas bon. Ou alors, c'est très rarement bon. Et franchement, c'est une constante que j'ai repérée de pas mal de.
Il y a eu deux sœurs quand même.
Voilà,
il y a eu deux sœurs.
Il y a eu trois films que j'ai vus. Corridors, un ou deux qui sont bien dans la série.
Il y a
un
Yankee aussi, quand
même. Ouais, Vogue, c'est pas trop mal, oui, le cas de Spring Corridor.
C'est pas des films très récents.
Ah, mais ça date, en fait. Ça
date. Mais en fait. À chaque fois qu'on en voit un, on dit ouais, ça va être pas mal et on est toujours déçus. Non, enfin, moi je me dis ça parce que moi j'espère.
Je me suis dit une seule fois, ah ouais, ça va être pas mal.
Et bref, mais par contre, Mimic, je tiens un bon point du film, honnêtement, c'est peut-être le quart d'heure du milieu du film. C'est-à-dire que le début est vraiment pas bon, la fin non plus, mais il y a un petit quart d'heure au milieu où tu vois que la fille, l'espèce de petite fille qui dormit chez eux, c'est elle qui cause le problème, mais tu sais pas exactement comment, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas pourquoi. Ça crée un petit trouble qui marche pas trop mal pendant un quart d'heure, 20 minutes, avant de repartir dans n'importe quoi à la fin du film.
Ok, donc il reste 1h20 qui n'est pas terrible.
Voilà, quand même. Mais un quart d'heure de bien sur 2h.
Sur ce film, donc The Mimic. Donc ça, c'était le film d'ouverture. Peut-être que Taxi Driver, on aura la chance de le découvrir en France par d'autres moyens, mais pour l'instant, il n'y a pas de distributeur. The Mimic, c'est pas forcément la peine. Mais le FECP a fait deux avant-premières de films qui vont sortir. On va commencer. Par l'événement qui est The Battleship Island, le film de Ryu Seung-wan, et qui est de manière unanime le coup de cœur d'Istasia du festival, qui veut résumer très brièvement le film, et puis ensuite on va en parler.
Ah, elle vient.
Elias,
je peux. Non, je vais pas résumer tous les films.
Après, j'ai pas le nom d'acteur, etc. En gros, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale.
Tu as le nom des personnages.
Même ça. Il y a Choi Gong-wan et. Pardon.
On peut couper.
La petite fille s'appelle Sui.
En gros, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a du coup les Japonais qui ramènent des Coréens dans une espèce de mine sur une île.
L'île d'Ashima,
qui est donc une mine près du Japon, ouais. Et qui du coup sert à financer du coup par des moyens illégaux, donc par un peu une espèce d'esclavage total même, l'effort de guerre japonais. Et donc, dans cette petite mine sympathique, il y a des personnages variés et colorés qui y sont envoyés, notamment un musicien, de jazz et sa fille, un espèce de gros gangster un peu con mais assez super sympa, une prostituée assez funky, et voilà, et tout ce petit monde va du coup tenter de lancer une petite révolution pour enlever les méchants japonais de Ashima et sauver le monde.
Alors, ouais, c'est bien.
C'est bien parce qu'en fait, concrètement, Ryu Seung-wan, il a, je pense, compris comment faire un blockbuster au détail près. Et il nous le fait mais vraiment avec une maestria et un talent de la mise en scène, du rythme, du dynamisme, de la musique, de l'image, tout vraiment calé au millimètre près. Et tout marche. Et toutes les situations qui s'enchaînent les unes après les autres sont toutes originales. Elles font. Il y a vraiment. Enfin, c'est un peu con, mais il y a vraiment de tout en fait. C'est un peu con comme truc, mais.
C'est le film qui est un peu con aussi ou
Non, pas, oui un petit peu, mais ça marche pas, ça marche parce que c'est vraiment un divertissement, et c'est un excellent divertissement qui vraiment coche toutes les cases, je trouve, qui fait qu'on est dans un blockbuster, et qui est pas que les cocher, qui vraiment les coche et va encore plus loin pour juste dépasser l'état du bon blockbuster pour vraiment devenir un excellent blockbuster. C'est-à-dire c'est pas simplement qu'il te donne ce que tu veux et tu l'oublies quand tu sors, c'est ce que tu veux et qu'il te le donne, mais en 10 fois supérieur à ce à quoi tu t'attendais, et c'est... Et c'est incroyable.
En fait, c'est une approche du blockbuster totalement Spielbergienne, dans le sens où dans le sens où il nous plonge d'emblée dans ce dans cet univers sans pitié, super super violent et sans issue quelque part, et c'est vraiment viscéral, on est vraiment dedans. Donc voilà, c'est vraiment l'empathie, quoi. On est dans l'empathie pendant tout le film.
Justement, ce qui est hallucinant, c'est que c'est qu'il y a 5-6 personnages importants, voire plus, et qu'ils ont tous des sous-intrigues reliées entre eux. Donc, parfois on dirait une série, sauf que le film se tient en 2h30, parvient à créer, à développer et à clore toutes ces intrigues, alors qu'il y en a peut-être 3 ou 4 différentes dans le film, et à toutes les faire se relier. Il y a une espèce d'effort scénaristique, d'effort de créer un monde, en fait, créer une espèce de monde qu'on voit se dérouler sous nos yeux et qui marche super bien.
Après, les situations, l'écriture, comme tu dis, elle est parfaite. Elle est vraiment très bien tenue. Mais après, les situations, c'est vraiment du classique du film de guerre ou d'évasion. C'est vraiment du classique, et c'est peut-être pour ça que ça marche autant. C'est parce que c'est des situations qu'on connaît bien, qui sont pratiquement imparables, en fait. Si elles sont bien filmées, bien écrites, c'est pratiquement imparable. On peut pas ne pas aimer, en fait. Ouais, c'est vraiment, on est pris dans le truc. Il y a des scènes où on est au bord de la manipulation.
Ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment jusqu'au bout, quoi. Enfin, t'as un moment, le mec ose te sortir The Ecstasy of Gold de Morricone, oui, voilà, d'une manière super bien, et tu te dis, mais à quel point faut être sûr de toi pour sortir ce morceau dans ton film?
Pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est justement parce que le film a ce grain de folie, et justement le fait qu'il puisse sortir du Morricone comme ça vers la fin du film montre que Ryo Senua a atteint un tel niveau de maîtrise et de virtuosité qu'il peut à peu près tout se permettre. Enfin, le film est tellement bien mis en scène et tellement bien pensé que la première partie, on peut penser à Spielberg et des choses comme ça, mais la deuxième partie, qui est ultra violente et ultra cinétique, enfin il y a beaucoup de mouvements et d'actions, on pense à, je sais pas, Sergio Leone, oui, ou à des réalisateurs comme ça. Il y a une telle ampleur de mise en scène et de symboles et comme ça, et une sorte de catharsis à la fin du film que
puis il y a une liberté de ton et une liberté de ton qu'on trouve pas ailleurs, finalement. Et c'est assez impressionnant de voir qu'avec un... Il a un gros budget pour un film coréen.
Je sais pas, c'est quoi le budget d'ailleurs?
C'est 40, une trentaine de millions, je crois.
C'est pas énorme, hein, par rapport à ça.
C'est rien, mais pour un film coréen, c'est quand même beaucoup.
Et quand tu vois ce qu'il fait à la fin.
Et ce qu'il fait avec ça, le climax du film, il est ahurissant. Et voilà, il y a une liberté qu'on trouve pas dans le cinéma américain, par exemple, dans les blockbusters actuels. Et là, il balance tout ce qu'il a, et c'est vraiment impressionnant pour lui.
Nicolas, pas tort.
Bah, juste pour revenir sur le climax, justement, à la fin, c'est impressionnant parce que il arrive à créer enfin, il y a énormément de figurants, de personnages, d'enjeux en même temps dans une même bataille, entre guillemets, avec, comme on a dit, le musicien qui essaie de protéger sa fille, il y a le gangster qui, lui, essaie de mener ses troupes pour couvrir tout le monde, tous les Coréens qui sont tirés dessus par les Japonais. Et il y a plein d'enjeux comme ça au sein de la même bataille, et il arrive par la force de sa mise en scène à jamais nous perdre, en fait.
C'est ultra
et à vraiment gérer parfaitement l'espace, et il arrive à créer des moments d'action, de tension absolument monstrueux. Enfin,
et toutes les histoires sont fortes,
voilà,
en plus.
Voilà, quoi. Ça en plus. Et voilà, il y a une espèce de côté ultra tragique et en même temps épique au sein de la même
scène. C'est un vrai voilà. Grand mélo de guerre, quoi, en fait.
Finalement. C'est ça. Et puis la manière d'utiliser les zooms et les dézooms, je trouve ça toujours impressionnant. C'est une mélange de John Woo et de
alors, et la profondeur de champ. Voilà.
C'est vraiment notre coup de cœur du festival, mais sur lequel on va revenir, puisque a priori, enfin là c'est sûr, Metropolitan Film Export a les droits pour la France. Reste à savoir si on va le découvrir en VOD, en vidéo ou en salle.
Mais sortez-le en salle, s'il vous plaît.
Si non, vous mais écoutez.
Vraiment. Pour de vrai, c'est Discope, quoi. C'est pas pour regarder sur sa télé.
L'autre film qui, visuellement, on va en parler, qui était en avant-première et qu'on va découvrir le 3 mars sur le grand écran, c'est La caméra de Claire de Hong Sang-soo. Alors, Kefren Nicolas, on l'avait découvert à Cannes juste avant Le jour d'après, qui était vraiment un grand film. On en avait parlé comme un film un petit peu mineur et un petit peu
en retrait. C'est l'échauffement. Voilà,
c'est l'échauffement. Mais là, on va pouvoir y revenir vraiment comme une œuvre à part. Alors, je crois que Elvire, tu l'as découvert au FFCP.
Oui.
Du coup, est-ce que tu peux nous présenter cette autre avant-première, donc la caméra de Claire de Hong Sang-soo?
Oui, donc c'est un film qui a été tourné lors du Festival de Cannes 2016 en quelques jours. Et donc, le film suit Mani, qui est à Cannes pour un voyage d'affaires, qui travaille dans la distribution cinéma, et qui est virée du jour au lendemain par sa patronne, sans véritable explication, si ce n'est qu'elle serait malhonnête. Et on n'en sait pas plus. Et elle rencontre à Cannes Claire, donc interprétée par Isabelle Huppert, qui est là pour qui accompagne une amie, qui se balade, qui prend des photos.
Et donc, caméra, c'est d'ailleurs un appareil photo.
Oui, c'est l'appareil photo. Et donc, les deux femmes, elles passent quelques moments ensemble. Claire rencontre aussi la patronne de Mani et le réalisateur pour lequel Mani travaillait, qui venait à Cannes présenter un film. Donc, c'est un film qui dure 1h10. Et ça, c'est super cool. Quand on n'aime pas, comme moi, Hong Sang-soo. Parce que du coup, c'est super digeste. Moi, j'ai passé un bon moment. Franchement, c'est très léger, plus que ses autres films. C'est assez drôle. Après, voilà, ça a été tourné en 4 jours avec une petite caméra. C'est pas très bien réalisé, mais c'est fait rapidement. Quand il y a un scooter qui passe dans la rue, t'entends plus les acteurs parler.
Mais c'est le son direct. C'est
une nouvelle vague, ça.
Donc, niveau caméra, c'est pas très clair.
Oh!
Ah!
C'est tout pour moi, merci! J'ai vu ta besoule, les neufs!
En termes de réalisation, bref, c'est pas la folie, mais c'est. Vous pouvez pas faire mieux. Après, voilà, j'ai passé un bon moment. Je pense que j'aurais préféré le voir avant le jour d'après, c'est ça?
Ouais, c'était vraiment le jour d'après. Film qui était fait pour être vu à Cannes, en introduction du jour d'après. En fait, il y avait une vraie maison d'abîme, et il y a quelque chose d'assez jouissif dans le film, dans la manière dont Hong Sang-soo développe son personnage de cinéaste, qui est toujours aussi pleutre, et du coup on prend pas mal plein la gueule, mais on pense aussi à certaines... certaines images qu'on peut avoir du cinéaste lui-même quand on le voit sur la plage de Cannes, hein, se dire que vraiment il n'a pas envie de faire cette interview mais qu'il est obligé de y aller, quand on sait que Hong Sang-soo a annulé quasiment toutes ses interviews cette année à Cannes. Donc il y a quelque chose d'assez drôle et cocasse dans le film qui fait assez plaisir. Après, c'est vrai que c'est un tout petit film en termes de mise en scène. On sent que ça reste quand même un brouillon de l'œuvre à venir qui est le jour d'après,
dans laquelle il concentre. Il s'est amusé sur quelques jours.
Il y a quelque chose du coup, son histoire personnelle passe vraiment et vraiment médiatisée par le cinéma, par un vrai scénario et par des problèmes de mise en scène, des problématiques de mise en scène qui manquent un peu dans la caméra très clair. Donc c'est comme un film pour les fans. Hein, j'ai l'impression.
Comme tout, non, en fait. Parce que moi qui suis pas fan, justement, j'ai bien aimé.
J'ai exprès. Voilà, bon, en tout cas, là aussi, on en reparlera le 3 mars. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur les avant-premières, les films d'ouverture, de clôture.
Bon, bah, c'est bien.
Peut-être que je suis pas c'est bien.
C'est très bien.
Et on veut le voir en salle.
Sortez-le en salle.
Et on va passer aux événements, aux films événementiels du FFCP 2017.